France Info.
Bonjour Pablo Poli.
Bonjour.
Vous êtes cet acteur qui a su marquer les esprits en tenant le rôle principal, celui d'un jeune tétraplégique en rééducation dans le film Patient de Grand Corps Malade. C'était d'ailleurs inspiré de sa propre vie et de sa propre histoire. Vous avez d'ailleurs été nommé au César 2018 dans la catégorie du meilleur espoir masculin. Avant, il y a eu la série Les Lascars pour Canal+, Discount de Louis-Julien Petit, ou encore La Fille de Brest d'Emmanuel Berco. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du film d'Olivier Ducret et Wilfried Méhance et plus si affinité, où l'histoire de deux couples, deux générations différentes qui s'opposent, on va pas se mentir. Le premier, celui de Xavier et Sophie, est incarné par Isabelle Carré et Bernard Campan. Après 25 ans de vie commune, ils sont un peu usés par le quotidien. Le deuxième, celui d'Adèle et Alban, est incarné par Julia Faure et vous-même. Vous êtes amoureux, en pleine forme, votre libido dégouline presque, vos ébats amoureux sont réguliers, bruyants, ce qui indispose évidemment Xavier et Sophie qui sont voisins du dessous et donc loin de cette énergie confondante. Et clou du spectacle, vous n'hésiterez pas à leur formuler une proposition totalement indécente, qui va faire l'objet d'une bombe au sein du couple. Ce film, on a quand même le sentiment que c'est d'abord un regard sur la vie de couple, sur son évolution.
Ouais, je pense sincèrement, l'échangisme et si et ça, c'est plus le côté humour du film, mais je pense qu'on parle de l'usure du couple à n'importe quelle période. Bernard et Isabelle, dans ce film-là, ça fait 20-30 ans qu'ils sont ensemble. Bah, c'est dur de se réinventer et nous, à l'inverse, on est un petit peu plus jeunes, mais je pense qu'on est bien épuisés aussi. On est allé un petit peu trop loin, trop vite. Et on parle plus de ça, de l'usure du couple et du manque de communication pour faire perdurer les choses.
On sent que vous prenez un énorme plaisir, Pablo, dans tous vos rôles, mais alors celui-ci, c'est assez fort. Il y a cette tchatche que vous avez. Elle est là depuis votre plus tendre enfance?
Ouais, je pense. Ça parle très très vite chez moi. Je suis pas la personne qui parle le plus vite de la famille. Ça s'écoute plus ou moins, mais donc ça part vraiment dans tous les sens et tous les sujets sont abordés depuis qu'on est tout petit. Donc c'est une manière de survivre dans la famille, quoi, de pouvoir parler vite et de prendre du plaisir avec les mots.
On a l'impression que c'est un peu un conte de fées, cette histoire. Enfin, la vôtre, en tout cas. Vous étiez un cancre total. À l'école, c'était une catastrophe. D'ailleurs, votre père vous a encouragé très rapidement à arrêter l'école. Mais il y avait cet humour qui était très attirant vis-à-vis des autres, qui vous a poussé à découvrir le théâtre. Mm-hmm. Vous l'avez compris, ça, très vite, que l'humour allait faire partie de votre vie ou pas?
J'ai compris que j'allais le subir beaucoup au début, que moi, c'était ma manière de me planquer, quoi, d'être très, très mauvais à l'école, mais ça passait parce que je faisais rire les autres. Mais c'est très interdit. À la maison aussi, je me faisais beaucoup engueuler, mais j'étais rigolo, donc ça passait. Et quand t'arrêtes l'école, on t'encourage, en fait, au théâtre à être drôle, à être un petit peu différent. Donc tu comprends vers 16-17 ans que ça va être ça, qu'on va m'autoriser à être qui je suis. Mais au début, ça fait un petit peu peur de te dire, j'ai que ça comme arme, j'ai pas d'études, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout à part mon humour, c'est pas dingue, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je le vis plutôt vachement bien.
Le théâtre, c'est le point de départ, effectivement. Ouais. Est-ce que c'est là où vous découvrez?
Ouais, complètement, ouais. En fait, j'ai commencé par des textes qui sont pas des textes de théâtre, qui étaient un texte de Pierre Desproges autour de la mode. Et il y a plein de références que moi j'ai pas, étant né un peu plus tard que Pierre Desproges. Et je les faisais sur scène et les gens étaient morts de rire et je voyais les gens se questionner, alors que moi je comprenais pas tout ce que je disais. Et je me sentis, moi je pense, instantanément heureux de pouvoir parler avec les mots d'autres personnes et de faire rire les gens et d'être sur scène et d'être écouté et regardé et s'autoriser tout ça. Pour moi, c'est fantastique, quoi. Donc, je vais faire ça tous les jours de ma vie parce que sinon, je vais pas être très heureux.
D'ailleurs, au début, quand vous êtes arrivé au théâtre, vous n'aviez pas lu un seul livre de votre vie.
Non, c'était imposé par l'école, en fait. Et tout ce qui était imposé, même encore aujourd'hui, tout ce qui m'est imposé, ça m'intéresse pas du tout. Donc, de devoir lire Inconnu à cette adresse, de devoir lire tout ça, je faisais semblant, quoi. Et puis, j'arrive toujours à m'en sortir, à essayer de compléter une phrase que quelqu'un disait, oui, il se passe ça. Et oui, effectivement, il se passe ça à la fin. Et ça passait. Et j'ai découvert petit à petit, à travers des pièces de théâtre qui étaient plus simples à lire pour moi, que c'est fabuleux, en fait. La littérature, c'est fantastique.
À un moment donné, c'est pas que vous avez perdu pied, mais vous n'avez plus les moyens de financer vos cours. C'est une prof qui va prendre le relais, parce qu'elle a cru en vous, mais alors très très vite.
Ouais.
Elle va aller financer ses cours. C'est ce qui va vous permettre d'ailleurs de passer le concours de la classe libre et d'intégrer les cours Florent. Vous avez mis du temps à avoir confiance en vous.
Ouais, même encore aujourd'hui, je me questionne beaucoup. Mais en plus, c'était faux, c'est que j'avais les moyens. J'étais serveur et je vivais ma vie de jeune acteur, quoi. J'étais serveur et je payais mes cours.
Dans un café.
Et ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Enfin, ça devenait sérieux, quoi. Est-ce que tu faisais le choix d'être acteur ou pas, d'essayer de faire ça de ta vie ou pas? Et le manque de confiance en moi m'a fait dire, j'arrête, quoi. Et je suis allé voir cette merveilleuse femme en lui mentant, en disant, j'ai plus d'argent. C'était une très bonne solution. T'as pas d'argent, tu peux pas payer tes cours, t'as pas de cours. Et donc, je me suis dit, ça va très bien passer. Et elle m'a dit, non. Toi, t'arrêtes pas du tout. Donc, tu viens avec moi. Puis, elle m'a payé 2 mois de cours. Elle m'a dit, dans 2 mois, il y a un concours. Et si tu l'as, tu payes plus. Je me sentis hyper mal de lui avoir menti. Mais finalement, c'est bien parce que ça m'a motivé. Après, t'as plus le choix que d'y arriver, quoi. Parce que tu dois ça à cette personne, forcément.
Vous dites que vous avez été élevé à travers le cinéma, ça veut dire quoi ?
Mon père regardait énormément de films et que moi, j'étais bien devant des films. Je m'identifiais à tellement de personnes, des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes. Je m'en foutais, juste le cinéma me faisait rêver. J'avais pas envie de jouer, enfin d'être acteur, j'ai aucune conscience de ce que c'était que ce truc-là. Mais être devant un film, c'était fabuleux pour moi. C'est une heure, deux heures de paix et je pars n'importe où et c'était fabuleux.
Le point de départ, c'est 1984 avec Amadeus et Milos Forman.
Ouais.
Ça, c'est votre film devenu culte, d'ailleurs.
Ah ouais.
Vous l'avez vu quasiment une vingtaine de fois. Mozart, c'était un personnage particulier, indomptable, qui a su justement s'imposer aussi parce qu'il avait cette extravagance par moment et cette justesse, cette rigueur. Ça vous parle, ça ?
Énormément, ouais. D'être en dehors des codes et de faire quelque chose de nouveau, entre guillemets. Tu peux pas t'identifier à Mozart, parce qu'il y en a qu'un. Mais... la musique de Mozart, moi, m'a toujours énormément plu, énormément parlé. Et dans ce film-là, il y a la jalousie, il y a tout ça et l'admiration à travers la jalousie que je trouve d'une justesse terrible. Et pouvoir écouter du Mozart tout le long du film, de le voir composer, de voir à quel point c'est difficile d'être artiste alors que t'es considéré comme un des plus grands artistes de tous les temps. Ce film est un chef-d'œuvre absolu, il faut le regarder une fois par semaine, c'est très important.
Vous dites que pendant très longtemps, vous êtes senti seul et que le cinéma vous a beaucoup aidé.
Ouais.
C'est-à-dire ?
Bah, t'es pas seul devant un film, t'es avec d'autres personnages et tu peux t'identifier à certaines choses. Et j'avais du mal un peu à parler quand j'étais petit, à me confier, je pense, à mes parents. J'étais très compliqué comme enfant, j'étais très 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 chiant, donc je pense que je me faisais plus engueuler que soutenir à l'époque. Et à travers le cinéma, j'étais pas tout seul, c'était mes potes, les mecs à la télé. C'était toutes les femmes de ma vie, c'était tous les héros que j'ai eus, c'était les parents que j'aurais aimé avoir. Tu fais ton choix de vie à travers des films, c'est un peu triste dit comme ça, mais je le vis plutôt bien.
Mais il y a une dualité d'ailleurs, parce qu'à la fois vous avez un manque de confiance en vous et en même temps c'est pas simple d'être face à une caméra. Beaucoup disent d'ailleurs que c'est plus simple d'être au théâtre parce qu'il y a un public, il faut avoir quand même du courage, il faut se faire confiance malgré tout pour jouer.
Ouais, mais je me sens plus chez moi sur un plateau de cinéma. Je connais bien la technique, j'aime vraiment énormément cet art-là. Je suis vraiment très à l'aise sur un plateau de cinéma. Au théâtre, mais je serais pétrifié. Totalement pétrifié d'être... La caméra, elle est avec moi, c'est mon ami, l'équipe, je les connais, c'est bon. Au théâtre, je sais pas comment ils font, ça me manque beaucoup, j'aimerais bien y revenir, mais je serais pétrifié, quoi.
Quand on parle de vous, Pablo, on parle beaucoup de votre implication. C'est sans concession, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous y allez à fond. Pour le film Passion, vous avez perdu 12 kilos en un mois.
Ouais, non, 8, hein.
8.
Grand max.
Et il y avait une vraie implication. L'idée, c'était d'être à 300% dans ce personnage. Vous avez côtoyé des gens qui étaient touchés par ça.
Mm-hmm.
La tétraplégie, notamment, qui avait eu des accidents de vie terribles. Quand encore malade, s'est retrouvé en vous, il l'a dit à plusieurs reprises. Ça vous a changé, ça, ce rôle-là ?
Ouais, beaucoup. Parce que tout passait par le corps, et donc là, pour une fois, le verbe est un peu mis de côté. Et fallait être prêt, fallait te préparer. Et tu te dis, bon, je vais jouer ça, et tu lis le scénario. Et en fait, t'es obligé de t'impliquer, de voir qu'un tétraplégique, il a plus de ceinture abdominale, il peut plus bouger ci, il peut plus bouger ça, et t'as une évolution de personnage. Donc si t'es pas vraiment foncièrement prêt et au courant, je pense que tu vas passer à côté de ton job et je m'en serais beaucoup, beaucoup voulu. Énormément voulu, ouais.
Le public vous a découvert à travers ce film.
Ouais.
Il y a toujours eu beaucoup de films sociaux, sociétaux dans votre filmographie.
Ouais.
Quand on regarde bien Discount, La fille de Brest, Les Invisibles, De toutes nos forces, Marche ou crève, Passion. Là,
ouais.
On est même, il y a un regard énorme sur la différence.
Bah, ouais.
Est-ce que c'est pas le lien de votre vie et ce qui vous définit le plus? De soutenir la différence?
Ah ouais, je prends ça. Ouais, c'est peut-être totalement inconscient parce qu'en vrai, tu contrôles pas plus que ça les films qu'on t'offre. Mais ouais, ça me plaît beaucoup de soutenir la différence, c'est important, très important la différence, sinon c'est d'un ennui quand même mortel. Donc ouais, ça, je prends ça, merci.
Il y a une vraie cohérence aussi et un soin à apporter à vos choix, vous citez souvent Robert De Niro. D'être cohérent et d'être attaché au rôle qu'on vous confie, c'est important.
Ouais, après là, le personnage de Plus et Affinité, c'est pas quelqu'un que j'aime du tout, c'est pas un homme que je trouve très aimable, mais à jouer, c'est fabuleux.
Ça me rassure.
Ah non, vraiment, il est imbuvable ce type, mais il existe, et donc faut lui être hyper fidèle pour que les gens comprennent que ce mec-là existe et qu'on puisse être averti de tout ça, tu vois. Il faut s'investir, il faut être au plus proche de son personnage, quoi. Sinon, si tu fais chose en dilettante, tu auras un résultat qui est un petit peu bidon, quoi. Et ça m'intéresse pas du tout, ça, moi.
Vous avez gardé vos yeux d'enfant, c'est ce qu'on découvre au fil des rôles qu'on vous confie et que vous incarnez, avec toujours cette curiosité.
Ouais.
C'est ça, le nerf de la guerre ?
Ouais, être stimulé. Si tu fais ce que tu sais, je vois vraiment pas l'intérêt. On a des souvenirs, on a des films, des musiques, des tableaux qu'on écoutera à vie, mais ce qu'il y a demain est quand même très intéressant de voir ce qui peut se passer. Autre que ce qu'on nous dit, que la politique, tout ça, moi, ça me débecte et ça m'intéresse pas du tout. Mais humainement, je pense qu'il faut être, curieux. Il faut être très, très, très curieux. On a accès à tout, ben, allons-y, allons voir ce qui se passe, quoi.
En face de vous, il y a Isabelle Carré et Bernard Campan, qui sont quand même deux acteurs qui font partie du cinéma français, et qui ont cette humilité, cette force, cette capacité d'ailleurs à rester eux-mêmes dans la vraie vie aussi. Ça joue, ça fait du bien, ça nourrit.
Ouais, ça rassure beaucoup. Ça rassure beaucoup. Bernard Campan, je lui dis qu'il est pleinement responsable de mon humour. Ce qui est vrai, je regardais les trois frères avec ma sœur tous les dimanches quasiment. Et voir ce type hyper simple, qui aime jouer, qui est tout aussi investi que toi, mais c'est une belle leçon quand même de... On n'a pas le même âge, et t'as le même amour du jeu, et tu fais les choses bien, et t'es quelqu'un de simple. Tu peux ne pas être un enfoiré pour être quelqu'un de grand, quoi. Et ça, je trouve ça très rassurant.
Pour terminer, du moment où vous avez découvert Amadeus, le film culte hein, de Milos Forman, avec un Mozart indomptable, et plus si affinité, en passant justement par ce métier hein, de garçon de café, où vous offriez des expressos à deux ouvriers, ce qui vous renvoyait à la vraie vie. Qu'est-ce qui a le plus changé? Qu'est-ce qui y a le moins changé?
Je pense que mon degré d'engagement a beaucoup changé, de vraiment prendre les choses avec sérieux et moins que le côté que j'avais quand j'étais petit de « je m'en sortirai toujours » et même si je me fais engueuler, c'est pas si grave, ça passe toujours. Il y a un degré d'engagement qui a bien changé. Et ce qui n'a pas changé, par contre, c'est ma naïveté par rapport aux choses. De pas avoir de vérité du tout. Je pense que c'est une bonne chose. Mais cette naïveté, elle est belle si tu les mets au service de la curiosité. Et si c'est ça, je trouve que la naïveté, c'est beau, quoi. De te laisser traverser par les choses et d'aller voir, d'être curieux, en fait. Ça, c'est bien.
Merci beaucoup, Pablo, Poli, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Ici et plus si affinité, pardon, avec Bernard Campon, Isabelle Carré et Julia Faure. Merci beaucoup.
Merci.